Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC. I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Arnaud Souk.
L'after jusqu'à minuit sur RMC, comme tous les soirs en simultané sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Ravi de vous retrouver, ravi également de retrouver Pierre Ducroix. Attends, mais je lisais 18 décembre 76 plus 41, ça fait 18 décembre 2017, bon anniversaire.
Eh ben merci. Les anniversaires.
Merci Arnaud, merci Joe, c'est gentil.
Ça fait quoi de fêter l'anniversaire à l'after, dans l'after?
Ah, c'est quelque chose quand même.
C'est quand même un truc de ouf. T'imagines, t'as dû attendre 41 ans pour ça.
Et je vais te dire, tous mes proches sont très très heureux que je sois pas à la maison là, à l'heure actuelle et que je fasse l'after.
Ah, sinon t'aurais descendu le champagne. Bon, en tout cas, tu vas la garder celle-là. Hein. Tu demandes une copie de l'émission et tout parce que ouais, c'est quand même pas rien. Bonsoir, Jonathan Macardy.
Salut Arnaud, salut Pierre.
On déroule ensemble le programme du soir, les avis tranchés comme d'habitude. Pierre, tu nous parleras de la remontada niçoise. Tu l'avais annoncé quand les Aiglons étaient au fond du trou et tu le maintiens. Nice finira européen à la fin de la saison. Pour l'instant, en tout cas, ils sont dans les clous, les Azuréens, 6e du général de la Ligue 1 avec notamment Mario Balotelli on fire. On va en parler. À suivre également dans une demi-heure, une dure réalité à affronter pour l'Olympique de Marseille, c'est Jonathan qui nous en parlera. La réalité, c'est celle d'une quatrième place de Ligue 1, là où l'OM rêve, c'est écrit, c'est inscrit même dans les gènes du Champions Project de Ligue des Champions. La réalité, tu nous le diras, Jonathan, c'est celle d'une équipe finalement incapable de battre les gros. Marseille, on le rappelle, qui s'est incliné 2-0 hier sur la pelouse de Lyon en match de clôture de la 18e journée de Ligue 1. 22h45, les questions de l'after, on parlera notamment des cas de la Saint-Etienne et de Lille. Ça va très mal pour ces deux clubs, pourtant candidats à la première partie du classement. Et puis dans la deuxième heure, les avis tranchés des drôles de dames avec plein de louanges ce soir, les louanges de Philippe Auclair qui nous parlera de Manchester City, leader incontestable, incontesté en Angleterre, les louanges de Simone Rovera qui va tresser une couronne de laurier à Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, et puis d'autres entraîneurs à l'honneur, ceux de la Bundesliga. On en parlera notamment avec David Lorto. Un mot avant de développer tout ce programme du direct du soir, la Ligue 2, c'est Lens-Tours. On salue Jean Baumel à Bollard. Où en est-on, Djibo?
Salut Arnaud, bon anniversaire Pierre, salut Jonathan, bonsoir à tous. 2-0 pour le Racing Club de Lens. On vient de passer l'heure de jeu. Tout s'est déroulé en début de match avec l'ouverture du score par Christian à la 11e et 5 minutes plus tard, Souleymane Diarra qui a marqué d'ailleurs un joli but, un magnifique club de plus de 20 mètres face à Grégoire Coudert, le gardien de Tours, hein, qui s'enfonce clairement dans le bas fond du classement alors que Lens décolle un tout petit peu. Ils sont 15e désormais, les 100 et or, avec toujours autant de monde ici à Bollard, 23-24 000 spectateurs. Et il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est l'équipe sans ailleurs, avec un maillot spécial ce soir dessiné par les supporters et qui ressemble fortement à celui de 98 où Lens avait gagné son unique titre de champion de France. Donc 62 minutes de jeu, 2-0 pour les 100 heures face à Tours.
Évidemment, le 32-16, hashtag RMC Live pour réagir à tous nos avis tranchés. On va commencer par celui de Pierre Ducrot. T'as pas de jingle, mais c'est comme ça.
Pas de jingle?
Bah non, pas de jingle. Ouais,
pas de
désolé,
jingle, je
désolé.
Pas d'avis tranché.
Attendez,
je quitte le plateau.
Mais bah, j'étais pas là, Pierre.
Mais d'habitude, j'ai un jingle. Je ne vous jette pas la pierre, etc.
Mais je sais pas pourquoi.
Ça a merdé. Ducrot, il se décarcasse. Merci.
Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Pierre, tu voulais nous parler de Nice ce soir. C'est ton coup de cœur. Faut peut-être pas pousser, mais en tout cas, ça t'a bien plu de les voir.
Il y a un coup de cœur à la fin, je vous le dirai, enfin ou dans le corps de la vie tranchée, je vous le dirai, c'est sûrement ce que peut faire un club quand il est géré sereinement et calmement. Voilà, ce qu'on peut arriver à faire dans ces cas-là. Ouais, le GC Nice, la remontada, c'est un petit clin d'œil parce que la remontada des fois c'est un peu plus mal vécu, hein.
Ah bah c'est un bon souvenir.
Mais là elle est positive pour le GC Nice. Alors c'est pas pour revenir effectivement sur ce que j'avais pu dire en octobre et auquel je croyais fermement et je continuais à croire, mais
voilà, c'était combien à ce moment-là?
Ah, ils étaient, je crois, honnêtement, il faudrait retrouver l'émission.
Ouais,
je crois,
18e. Ils ont été jusqu'à 18e. Ce que tu as dit à l'époque, c'est que toi, t'as toujours affirmé depuis le départ que Nice finirait européen cette saison.
Ouais, voilà, on était avec Daniel, et Daniel disait effectivement que ça allait très très mal au GC Nice, qu'il y avait eu un été difficile, etc., et que cette saison allait être compliquée pour Nice. Et moi, j'étais plutôt dans l'analyse inverse où effectivement c'était un moment difficile, mais que ça allait à un moment donné aller mieux parce que ce club était géré par des personnes saines, ouais, avec un coach sain aussi, et qu'à un moment donné ça allait revenir et ça allait se remettre en place. Alors je voulais en parler de cette remontada parce que tout le monde l'a vu, hein, j'invente rien, pour deux raisons. Voilà, pour deux choses. Déjà, ça va nous rappeler ce qu'a réalisé le GC Nice depuis début novembre. Le 2 novembre, ils perdent contre la Lazio. Depuis, c'est 10 matchs. Sur les 10 matchs, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ce rythme-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le GC Nice, tout simplement, est revenu dans le top 6 de la Ligue 1. Grâce à quoi? Grâce à, avant tout, sur le terrain, des hommes en forme qui ont retrouvé un certain niveau. On peut penser bien sûr au buteur Balotelli qui depuis 7-8 matchs marque un but en moyenne par match, donc ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Pléa qui a pas été à son avantage contre Bordeaux, mais qui sur la durée là, dans cette période là, a été plutôt bon. Sarr en défense centrale qui recommence à faire du bien. Voilà, il y a Lesmelou aussi qui fait une série de bons matchs et qui est assez régulier dans cette bonne attitude. Donc tout ça c'est sur le terrain et ça se passe plutôt bien et ça fait du bien à l'OGC Nice. On peut rappeler aussi, ou en tout cas c'est grâce aussi à un collectif et à un club qui a géré toute cette mauvaise passe, et c'est là où j'en reviens à ma première idée, de façon très calme et très sereine. Et pourquoi je voulais parler de cette remontada de Nice en ce moment, c'est parce que si ça pouvait donner des idées à tous les contre-exemples qu'on a en ce moment en Ligue 1 dans les clubs de même standing que
Bordeaux,
Nice,
et compagnie, comme l'adversaire de Nice ce week-end, Bordeaux, par exemple.
Exactement.
Gourvennec d'ailleurs qui a réclamé d'imiter les Niçois.
Ben, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est à un moment donné, faut mettre tout en place dans un club. Je parle pas seulement d'un coach, mais dans un club. Pour ça, on peut penser à Saint-Etienne aussi en ce moment. On peut penser à Lille aussi en ce moment. C'est des clubs qui ont peut-être même plus de budget que Nice. En tout cas, c'est des clubs de même standing. Voilà. Donc on peut en tout cas, on n'a rien à envier du côté de Saint-Etienne, de Bordeaux ou de Lille à Nice.
Bah, si ce n'est peut-être une direction mieux ancrée,
plus sérieuse, la cellule de recrutement, la direction
sportive. Exactement. Voilà. On peut saluer le boulot.
C'est bon les bulots.
Ouais, même si les fêtes approchent,
ils doivent manger des bulots, je pense.
Le boulot du coach Lucien Favre. Voilà, qui est. On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu un mot plus haut que l'autre que ce coach.
C'est vrai.
Et pourtant, au sein du vestiaire, on sait que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et il mâche pas ses mots. Et à tout le monde, à tous les joueurs. On le sait, quand on connaît un peu certains joueurs, quand on connaît du monde, ça se sait. Lucien Favre est une autorité naturelle du groupe, et c'est bien. Il y a un organigramme aussi, et ça on peut le saluer, à l'OGC Nice, avec des autorités administratives, je vais les appeler, même si c'est peut-être pas exactement le terme, mais en tout cas dans les couloirs, dans les bureaux, il y a un organigramme qui est respecté, avec des autorités qui sont respectées. Et ça fait du bien, et c'est comme ça qu'un club de foot doit fonctionner. Et on a peut-être tendance des fois à pas laisser suffisamment de temps au club, nous consultants, nous journalistes, nous supporters parfois, dans ces mauvaises passes. Et ben Nice a réussi à faire ça. Et la deuxième chose, voilà, et ce sera la fin de mon avis tranché, la deuxième chose, c'est justement nous rappeler ça. Nous consultants, journalistes, quand on veut tirer des conclusions un peu trop hâtives, parfois, après une mauvaise passe de 3-4 matchs, surtout dans une Ligue 1.
C'est plus que ça, finalement. C'est-à-dire que Nice n'a pas réussi à digérer son été.
Ça a été 3 mois. Allez, ça a été 3 mois difficiles. Mais 3 mois finalement, quand tu vis un été comme le GC Nice l'a vécu, et qu'il se passe rien en interne de très mauvais finalement, parce que les discours restent positifs, restent cohérents. Est-ce que nous aussi des fois, j'en fais partie, hein, consultant, on va pas trop vite parce que on essaye de mettre le doigt sur quelque chose et que finalement le temps fait son boulot quand tout l'environnement est sain et travailleur comme c'est le cas à l'OGC Nice.
On a oublié quand même, je te donne la parole Jonathan dans une seconde, on a oublié quand même aussi avec Nice de préciser, de se souvenir que Bossetti, que Esric, que Dalbert, que Eduardo, que tous ces joueurs, Ricardo Pereira, pardon, tous ces joueurs, ils étaient partis au mercato. Il y a eu quand même des énormes pertes.
Bien sûr.
Série, faut se souvenir de l'épisode avec le Barça. Balotelli, heureusement, il a été là.
C'était toi, Balotelli, Arnaud.
Pardon ?
Ça s'est calmé tôt, Balotelli.
Oui, non, ouais. Mais ça s'est calmé tôt. Mais enfin bon, voilà. Heureusement, il est quand même vite revenu. Favre aussi, il a pas été loin de. Enfin bref, il y a eu
beaucoup
pas
de
mal
choses.
De péripéties cet été, sans compter donc la double confrontation face à l'Ajax Amsterdam et surtout la double confrontation face au Napoli en tour préliminaire. Jonathan.
Écoute, sur l'organisation, la structure de Nice, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours pensé que c'était un club qui était extraordinairement structuré, mais pas que depuis 2-3 saisons, mais je pense depuis 5 saisons. Mmh. Je pense que c'est la meilleure cellule de recrutement rapport qualité-prix de France. Hein, c'est pas que les d'Albert et compagnie, ça datait d'avant avec les Svitanić. Il y avait beaucoup d'autres, beaucoup qui ont été faits auparavant. En revanche, alors c'est vrai que le club est très sain, mais j'attends un peu de voir parce qu'il y a quand même que 2 points entre Nice et Caen. Caen qui est dixième. Et j'ai l'impression que t'as quand même un ventre mou qui est assez resserré.
Oui.
Donc de là à dire qu'ils vont être européens, que ça va coller et tout, je pense qu'il y a moins d'équipes, il y a quand même pas assez d'écart entre Nice et le dixième qui est Caen. Et enfin, même pas forcément le dixième, mais t'as vraiment un ventre mou qui est assez dense avec 8 équipes qui tient en 2-3 points.
Et qui sont loin derrière les 5 premières d'ailleurs, hein, parce que Nice a 4 points de retard sur Nantes qui est 5e.
Et la chose que je vois, c'est qu'il y a une différence entre deux équipes qui sont un peu similaires, c'est Nantes et Nice. Nantes, je les trouve quand même beaucoup plus sereins dans le jeu. Alors c'est pas flamboyant, c'est pas très beau à voir, mais ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Mais c'est très organisé, c'est une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, c'est des joueurs qui ne se prennent pas pour des autres et qui gagnent les matchs qu'ils doivent gagner d'une manière un peu constante, avec un style un peu constant. Et Nice, t'as quand même encore des trous dans le jeu. Alors il y a du mieux.
Je suis d'accord avec toi.
Mais ça reste quand même dans le jeu, t'as pas encore la dose de certitude qui peut te dire oui Nice, ils ont 2 points d'avance, ils vont finir européen.
T'as presque apporté une partie de la réponse à ton interrogation, en tout cas au fait que tu veux y attendre un petit peu dans ton analyse. C'est qu'il y a une vraie cellule de recrutement et il y a une vraie cohérence là-dedans à l'OGC Nice. Et je pense que le mercato d'hiver, il y aura
Ça on verra,
une ou deux retouches, mais qui seront très utiles.
J'espère
très
parce que autant tu vois, je pense que depuis 4-5 saisons, ils font des mercato qui sont quand même extraordinaires. Jean-Michel Seri, Darius Svitanić, D'Albert, Ricardo Pereira. Mais je trouve qu'ils se sont un peu loupés cet été.
Ils
et j'attends de voir comment ils vont se rattraper cet hiver.
Notamment sur l'hôtel du recrutement de Wesley Schneider, qui était un pari. On en avait
justement
discuté.
Mais comme on le disait, il y a sa femme. Et sa femme, c'est une amie. C'est déjà pas mal. Ouais.
Mais je pense qu'en janvier, elle sera peut-être plus là.
C'est dommage, c'est une amie.
C'est vrai qu'on. Il y a Stéphane qui a fait le 32-16, qui nous appelle de Colomar. C'est comme ça qu'on dit? Salut Stéphane.
Ouais, c'est comme salut ouais.
Dans les Colomar et Kim.
Ah, c'est salut pas, Stéphane. C'est pas Colmar.
Salut, non, c'est pas Colmar, c'est Colomar. Ah,
ouais. C'est où Colomar?
T'es à côté de Nice, c'est ça?
C'est à côté de Nice, ouais. C'est dans les hauteurs de Nice en fait.
Très bien,
d'accord.
La vie d'or,
c'est vers la Col Chalou et compagnie là.
En gros, t'es pas mal là-bas.
Non, à Verras-Promont, tout ça, à Carrosse.
Ok. Il y a des bonnes fraises à Carrosse.
On va peut-être pas refaire le sketch.
Non.
Le chevalier Laspalès. Stéphane, supporter niçois, vas-y, dis-nous tout.
Ben moi je vous ai écouté parler, moi je pense que ça va être dur d'être, enfin moi je pense pas qu'on soit européen, on est beaucoup moins fort que l'année dernière, notamment à cause de notre mercato qui a été complètement raté cet été, parce que moi j'ai encore en travers de la gorge, notamment le Colli à 3 millions d'euros qui vient de série B, le mec on l'a vu jouer contre je sais plus qui, Vitesse Arnhem, c'est une catastrophe. Et après quand on voit qu'on laisse partir D'Albert pour 30 millions d'euros, qu'on n'est même pas capable de recruter un arrière gauche, là c'est compliqué. Je veux dire, il y a eu des mercatos qui ont été réussis, mais là, il faut le dire. Franchement, cette année, ils ont merdé dans le mercato. Et encore heureux que cette année, Balotelli marche sur l'eau, parce que je sais pas où qu'on serait cette année.
C'est le premier mercato qui est foiré depuis des années, hein, quand même.
Ouais, et t'arrives à retenir série, hein. C'est quand même pas rien, hein, retenir série.
Non, on retient pas série. C'est juste que le Barça, au dernier moment, ils ont pas voulu prendre.
Oui, parce qu'il y a eu les atermoiements des soins.
Ouais, mais il le vendait, sinon. Ils s'en foutaient, il le vendait.
Non, c'est plus compliqué que ça, Stéphane.
Ouais, mais bon.
S'ils avaient dit oui plus rapidement, ils partaient.
Mais disons que c'est pas ce qu'il a dit le président. Hein. Le président, il a fait une interview, il a dit nous, on était d'accord pour le vendre. Et au dernier moment, le Barça a dit non. Enfin bref, s'il l'aurait vendu, je sais pas où on serait. Comme après le pénalty de Toulouse, vous dites qu'on peut être européen, mais il faut pas oublier d'où on vient. Contre Toulouse, si on perd à Toulouse, peut-être que c'est nous qu'on a la place de Toulouse aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment fragile,
Toulouse, hein,
européen. Ouais, mais si on perd à toujours, où on est, nous? Voilà, la question refait le monde, je suis d'accord, mais voilà, c'est fragile. Ça. Moi, je pense que ça va être fragile. Je pense que, voilà,
Stéphane, mais sur le recrutement, puisque c'est de ça dont on parle, quand tu vois un gars comme Pierre Lesmélou, quand tu vois
finalement Céric qui reste... Mais Melou, moi, pour moi, c'est pas un bon. Vous êtes sur tous les réseaux.
Je suis d'accord avec toi, Stéphane.
Saint-Maximin.
Lesmélou, c'est léger. Lesmélou, il est inconstant. Il fait quelques bons matchs, mais c'est léger. Physiquement, il manque de densité. Il manque de densité. Il est bon, avec les faibles.
C'est pas sa qualité première.
Il est bon avec les faibles, mais il est faible avec les forts.
Il a une foulée qui lui permet souvent de faire la différence dans la surface.
Club européen. Pierre, c'est pas un joueur
en Ligue 1, en Ligue 1, dans un club comme Nice, je suis désolé, moi je pense que ça peut faire du bien.
Mais enfin, c'est pas un joueur moyen de Ligue 1. Pour moi, Nice, ça doit être un des cadres, ça devrait être un des cadres de Ligue 1.
T'as déjà 4 clubs qui sont largement au-dessus, a priori.
Quand tu regardes les prestations récentes de Nice en championnat, que ce soit sous l'ère Puel ou avec Lucien Favre, c'est un club qui est en progression constante, c'est un club qui a quand même des actionnaires qui sont relativement solides, c'est un club qui peut s'appuyer sur un bassin de population qui est relativement dense, qui a une très bonne cellule de recrutement. Je pense que c'est un club qui est voué à s'inscrire d'une manière pérenne dans le top 5. Et si c'est un club qui est voué à s'installer d'une manière pérenne dans le top 5, Lesmelou, c'est pas un joueur pour toi.
Et sauf qu'avant Nice, tu peux alors avoir forcément Marseille, Lyon, Monaco, Paris, et tu devrais avoir logiquement
Nice et Bordeaux,
Saint-Etienne,
Bordeaux, Saint-Etienne, Lille, c'est pareil pour moi.
Des projets plus ambitieux.
Mais pour moi, c'est la même.
Oui, logiquement, c'est la même chose. Ça fait quand même 4 clubs qui cherchent à briguer le top 5.
Oui, je veux dire,
Je vais peut-être dans la mare, mais je pense que Nice est au-dessus de ces clubs-là dans son organisation, dans sa structure et dans son potentiel. Avec le stade, la cellule de recrutement, le bassin de population, les actionnaires, Nice, à mon sens, devrait être le cinquième club de Ligue 1 et très facilement.
T'es d'accord avec ça, Stéphane?
Ouais. C'est la conjoncture,
Je suis largement d'accord. Ouais, je suis largement d'accord avec ça. Moi, pour revenir sur Lesmelou, par contre, il en fait jouer ailier gauche cette année jusqu'à hier.
C'est dur,
mais c'est pas un ailier gauche, le mec. C'est pas un ailier gauche.
D'accord avec toi, parce qu'il n'y a pas de vitesse, c'est compliqué.
Ben voilà, mais c'est là qu'on voit que le recrutement à Nice, il a été raté, parce qu'il vous manque un ailier gauche, on a que ça, maximum à droite. Mais le recrutement à Nice, il a été complètement raté. Mais quand on prend un Mendy, là, à court de forme, il a disparu la saison. Non, franchement, moi, cette année, je suis blasé par rapport à l'année dernière.
Quand on appelle ses ex, c'est jamais bon, tu sais, Stéphane.
Et Stéphane, tu vois pas un changement, toi, depuis un mois et demi, quand même?
Moi, je vois du changement depuis 3-4 matchs. Là, je vois ça va mieux. Mais moi, au début de saison, j'ai vraiment eu peur. Sincèrement, j'ai vraiment eu peur.
Mais attends, on n'enlève pas le mauvais début de saison.
Stéphane et Pierre, est-ce que franchement, sur la série de 10 matchs où les résultats sont très positifs, est-ce que tu vois une équipe qui est sereine dans le jeu, qui est régulière, qui a des certitudes et qui s'impose?
Voilà. Je te dis pas que le GC Nice a quand même beaucoup de chance. Jeu bien léché, du contenu parfait. Sauf qu'en Ligue 1 aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir un contenu parfaitement léché dans le jeu, etc., pour t'imposer. C'est là le truc. Ouais, voilà. C'est qu'aujourd'hui, pour finalement à une place européenne en Ligue 1. Alors, je suis d'accord avec toi, tout est serré. Sauf qu'en deuxième moitié de championnat, tu vas voir, tout va rentrer plus ou moins dans l'ordre. Et que pour l'instant, Nice, pour moi, est dans une dynamique positive. C'est pour ça que, et puis, je te dis une fois de plus, je reviens sur sur comment est géré ce club, et je suis persuadé que ça va être très déterminant pour Nice par rapport à d'autres clubs.
Et juste pour défendre un petit peu la cause de Pierre Lesmelou, tu dis c'est un joueur moyen, faut se rappeler juste de ce joueur d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait d'abord à Dijon avant d'être transféré à Nice. Pour l'instant, c'est un joueur quand même qui suit une trajectoire, extrêmement rectiligne. Ça m'étonnerait pas de le voir jouer dans un club peut-être un peu plus huppé, en tout cas au niveau du nom et du palmarès.
Faut aimer ses qualités. C'est pas un joueur puissant, c'est pas un joueur de vitesse, de rupture, etc. C'est un joueur qui a de la finesse, c'est autre chose comme qualité, c'est autre chose comme profil. Faut savoir le faire jouer aussi. Effectivement, sur le côté gauche, je suis pas persuadé que ce soit.
C'est un côté, j'ai du mal à le voir.
On remercie Stéphane d'avoir fait le 32-16. On accueille Théo également, supporter de Nice. Salut Théo.
Bonsoir tout le monde.
Salut Théo.
Je te donne la parole. On te donne la parole.
Je suis relativement confiant pour l'Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, en Ligue 1, et on n'a pas besoin d'être quatrième pour être en Europe. Il suffit d'être sixième. Le Paris Saint-Germain gagne tout, donc à partir de là, on est sixième, on peut être en Europe. Et aujourd'hui, on n'a peut-être pas l'effectif de l'année dernière, mais on a un effectif pour viser le top 6. Donc pour ça, je suis relativement confiant. Après, pour l'effectif, comme l'ancien auditeur, je pense également que le recrutement, il a été relativement loupé, à part Saint-Maximin, peut-être Tamézé et Makengo.
Makengo, c'est pas mal.
Français. Mais c'est vrai que Lesmelou, je vous entends depuis tout à l'heure, mais il a du mal, quoi. On sent qu'il a des problèmes par rapport à la vision de jeu et tout à raison.
Oui, mais c'est pas le seul, Théo, depuis le début de la saison, Pierre Lesmelou, à avoir des problèmes avec la vision de jeu.
Non, c'est pas le seul, mais on passe de Belanda à Lesmelou au milieu de terrain. Et on passe aussi surtout de Cyprien à Lesmelou.
Il va revenir, Cyprien.
Va revenir. Ouais, il va revenir, il s'est cassé la jambe. On ne sait pas comment il va revenir.
Je compte sur lui. J'ai mon petit gazon, je compte sur lui.
toujours ramené à mon petit gazon. J'adore.
Ah, il est bien. Au classement, il est bien. Donc, forcément.
Ouais, ouais.
Bon,
Théo, t'as coupé.
T'es confiant, Théo, quand même, ou pas?
Ouais, je suis confiant. Ça reste la Ligue 1. On est pas, on joue pas en première ligue. Moi, je regarde un peu. Je regarde Bordeaux. Plus j'habite à Bordeaux, tous mes potes sont bordelais. Je leur dis, bah, Bordeaux, c'est plus ce que c'était. Quoi. C'est pauvre. Saint-Étienne, j'en parle même pas parce que quand on mise tout sur un Donny ou un Monet Paquet, les pauvres Stéphanois, ils se font bien chier le week-end. Toulouse, c'est plus que t'étais. On dit que la Ligue 1 progresse, mais en fait, c'est les gros qui progressent.
Bon, au final, t'es Paris, content d'avoir laissé Mélou quand même dans tout ça, là, d'après ce que tu nous dis.
Non, je suis surtout content que Cyprien revienne. C'est surtout ça. Parce que laisse Mélou, il est mignon, il est gentil, il vient du Ferré, mais.
En plus, pas très
mais
loin.
C'est léger. C'est léger.
Ouais. Merci Théo d'avoir fait le 32-16.
Salut Théo,
de l'OGC.
Souris à la vie Théo.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air compliqué. Pour Théo, un petit mot quand même de Mario Balotelli. Tu le disais, heureusement qu'il est là. Franchement, je crois que c'est 10 buts hein, cette saison inscrits pour Mario Balotelli depuis le début de la saison en Ligue 1.
Il est dans le jeu, il est là aussi.
Favre est en train de le transformer un petit peu. Ce qui honnêtement.
Il fait pas de vagues.
Il y a aucun coach qui a réussi à le faire pour l'instant.
Il a plus cette nonchalance qui le caractérisait. Il participe, il redescend chercher des ballons, il va au pressing, il fait ses tâches défensives. Bravo, c'est cool.
Ouais, c'est cool.
Ça fait plaisir.
Et moi, ça me conforte dans mon idée que Favre est un vrai coach, un vrai manager,
un super entraîneur.
Et que même un garçon comme Balotelli qui a eu du mal un peu partout là où il est passé, avec ses qualités, avec son potentiel, mais avec un caractère spécial, avec une attitude spéciale. Et ben là, force est de constater qu'à Nice, tout se passe bien et que c'est bien géré.
C'est le meilleur entraîneur de Ligue 1, Favre, de toute manière. Je pense qu'on peut le dire.
Je sais pas.
Quel autre entraîneur aurait pu entraîner le Bayern de Munich?
T'as un Jardim qui fait des choses extraordinaires.
Quel autre entraîneur aurait pu entraîner le Bayern?
Je suis pas persuadé qu'Unai Emery puisse pas entraîner le Bayern.
Bah, moi, je pense que non.
Non,
je pense que jamais
il aurait bien entraîné l'AS Rome.
Désolé, sois sérieux.
Je suis très sérieux. Il fait quelque chose d'extraordinaire avec Nantes aussi.
Oui, mais je pense quand même que tu vois quand tu regardes le vécu et ce qu'il est capable de faire avec ce qu'on lui donne, c'est quand même exceptionnel.
C'est un des meilleurs en tout cas. C'est un des meilleurs. Après de la dire, enfin,
je pense c'est le meilleur.
Juste un petit mot pour conclure sur Nice, Pierre, t'as pas peur que justement la trêve ça puisse peut-être couper un petit peu cet élan positif? Après, faut aussi remettre dans le contexte. Tu bats là sur les 4 derniers matchs. Tu bats Nantes, tu bats Toulouse, tu bats Metz, tu bats Bordeaux.
Et d'ailleurs, Nantes, c'est bien.
Oui, non, mais Nantes, c'est bien, d'accord. Ok, très bien.
Le début 2018 sera plus difficile au niveau du calendrier. J'ai regardé, je l'ai plus en tête, mais j'ai regardé. Ce sera des matchs un peu difficiles.
Après, mais comme tu dis, il y aura peut-être le mercato.
Voilà, c'est une période où ça va pouvoir peut-être se renforcer un petit peu. Le mercato. Une ou deux petites touches.
Cyprien avec une vraie préparation physique.
Exactement.
Ça pourra aider aussi, quand même.
Non, et puis je pense qu'ils sont dans une dynamique là où voilà où ils sont revenus dans quelque chose de plus cohérent pour eux quoi. Tout simplement ils ont passé la mauvaise passe. Alors je te dis pas qu'ils vont tout gagner jusqu'à la fin, bien sûr. Il va y avoir des
franchement
ça va fluctuer, mais
je suis d'accord avec toi, mais je me
sur la longueur,
c'est quand même encore un peu tôt pour savoir quoi.
Oui
c'est tellement resserré, mais après comme tu dis les écarts vont finir par se creuser, mais on va voir.
On verra ce que Noël amène au mercato niçois. En tout cas, grâce à rueducommerce.com, on a plein de cadeaux à vous offrir.
La transition.
Des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des overboards. Ça te fait rêver, hein. La transition et mes cadeaux.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, ils sont là. Ils sont là, les cadeaux. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël. Je crois que j'ai fait une bêtise parce qu'il y avait la tête de Gilbert Bribois sur la boule et je crois que
retourné Gilbert Bribois.
J'ai retourné Gilbert Bribois. Pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël par SMS au 7-32-16. T'as pas entendu crier?
Ouais, j'ai entendu crier dans le couloir. Il y a des têtes qui vont sauter.
Noël par SMS au 7-32-16 ou le 32-16 touche 5. Bonne chance à vous. Dans un instant, l'after continue sur AMC et sur BFM Sport avec la vie tranchée de Jonathan Macardy qui va nous parler de la défaite de l'Olympique de Marseille hier 2-0 face à Lyon.
C'est une page de pub là.
Oui, pourquoi?
Remets vite la boule de Gilbert.
Attends, hop, voilà. Je pense que là, si la caméra se remet dessus, c'est bon.
Non, toujours pas.
Attends, on va essayer de le faire en direct. Voilà, il est là, Gilbert. Bravo, excellent.
Toucher les boules de Gilbert, c'est pas
avec, ça, un peu. Avec la vie tranchée de Jonathan Macardy dans un instant. Et Marseille, cette défaite face à Lyon qui ramène à la réalité. C'est ce que tu nous diras, Jonathan. Ouais. Hashtag RMC Live et 32-16 pour réagir. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Arnaud Souk.
L'after jusqu'à minuit sur RMC ce soir avec Jonathan Macardy et Pierre Ducrot. On a longuement parlé de Nice. Vous réagissez notamment pas mal à nous dire hein, que Mario Balotelli sur le hashtag RMC Live. Bah oui, bah oui, on fait bien enfin de souligner que c'est un bon attaquant, voire même un.
Toi, tu l'as toujours fait. Moi, je l'ai toujours fait.
Visiblement, l'after est plutôt n'est pas avare en taillage de Mario Balotelli.
Ouais. Ok.
Allez, on passe à ton avis tranché, Jonathan. Non, on passe pas à ton avis tranché. On va d'abord aller voir Djibo au stade Bollaert pour le match de Ligue 2 du soir entre Lens et Tours. Où en est-on, mon cher Djibo?
Toujours 2-0 pour les Lensois. Il reste 4 minutes. C'est la fête dans les travées de Bollaert. Hein. On a eu le spectateurs. Eh bien, on est à pas loin des 24 000. Lens qui a baissé un petit peu de niveau de jeu et qui se laisse un petit peu dominer par des Tourangeaux qui sont vraiment très, très maladroits offensivement. Et malheureusement pour eux, c'est une saison vraiment plus que galère. Hein. Seulement 5 points au bout de 19 journées de championnat. Je sais pas si c'est un record, mais en tout cas, ça doit pas être très loin et pour l'instant Lens fait une petite opération intéressante puisque voilà, ils s'écartent un peu plus quand même de la zone rouge où ils ont végété pendant très très longtemps depuis le début de saison. Donc moins de 3 minutes à jouer désormais, 2-0 pour Lens qui devrait s'imposer pour la dernière de l'année à Bollaert.
Allez, 22h30, toi non plus Jonathan, tu n'as pas de jingle, mais je te laisse la parole. Allez. Pour ton avis tranché sur l'Olympique de Marseille.
Bah écoute, je pense que la défaite d'hier de l'Olympique de Marseille face à Lyon, c'est une défaite qui ramène un peu à la réalité. Alors il y a l'effet c'est que l'Olympique de Marseille va mieux. L'OM joue le podium, ça on est tous unanimes pour le dire. Il y a eu une très belle série où à un moment Marseille était second, où ça s'est un peu enflammé, on était tous enthousiastes par rapport à la série de victoires et la série de résultats positifs. Il y a eu le changement tactique un peu plus tôt opéré par Rudy Garcia qui est de son inénarrable 4-3-3 pour laisser la place à un 4-2-3-1 beaucoup plus équilibré et qui laissait penser qu'éventuellement on pourrait arriver à une autre évolution, pourquoi pas avoir un 4-4-2 avec Germain et Mitroglou en pointe. Et puis donc si j'en tire le bilan de cette première partie de saison, c'est quand même relativement positif avec des bons résultats, une équipe qui a montré quelques belles choses dans certains matchs et une équipe qui est on peut le dire sur une très bonne pente. Le problème en fait que j'ai avec le match d'hier, c'est que le match d'hier, même si comptablement t'es toujours dans le coup, t'es toujours très proche de la seconde place, ben, je pense qu'il fait beaucoup plus de mal que ce qu'on peut le croire. Pour trois raisons. La première, c'est que sur le match d'hier, on a encore vu que bah, clairement t'as un entraîneur qui est dépassé tactiquement avec des choix douteux quand l'adversité augmente. C'est un entraîneur, Rudy Garcia, qui a honoré une fois de plus sa tradition, cette espèce d'image qui lui colle à la peau d'entraîneur qui se prend des valises face au gros. C'est quand même, depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, 28 buts pris contre Monaco, Lyon et Paris. C'est 2 points en 8 matchs face à ces grosses équipes. Donc ça déjà, quand tu t'appelles l'OM Champions Project et que tu as pour but de finir second de la Ligue 1 pour te qualifier directement en Ligue des Champions et redevenir attractif sur le marché des transferts, c'est quand même un peu compliqué. Le deuxième point qui m'a semblé être assez saillant et assez négatif pour l'OM hier, c'est que t'as toujours une charnière qui est bancale. Alors t'as Adil Rami qui se bat, qui fait des bons matchs, qui vraiment s'impose comme le patron de cette charnière, mais t'as aucun des deux, que ce soit Rolando ou Avdenour, qui fait la paire avec lui. T'as toujours une défense qui est bancale, t'as toujours l'impression que tu peux te prendre des buts face à n'importe qui, t'as toujours l'impression que n'importe quelle équipe, même une équipe de district qui jouerait contre l'Olympique de Marseille, j'exagère un peu, mais pourrait planter un but face à cette charnière-là. Et ça, c'est quand même dingue, parce que ça fait quand même 2 ans que t'as le même problème. Et le troisième point, ben, c'est que la gestion calamiteuse du poste de numéro 9 à l'intersaison, tu la payes sur le match d'hier. Très clairement, tu la payes. T'as un Valère Germain qui est pas dans le coup, qui fait pas un très bon match. T'as Mitroglou qui rentre à 30 minutes de la fin et qui fait pas non plus un très bon match. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison? On va récapituler d'une manière assez rapide. Mais t'as quand même la perte d'une Valère qui était très très sûre, qui était Bafétimbi Gomis, qui est quand même monsieur 15 buts en Ligue 1, quoi qu'il se passe, 15 buts en Ligue 1 assuré. T'as pas réussi à le convaincre de rester, que ce soit pour un poste de doublure ou pour un poste de titulaire bis ou même pour un poste de titulaire.
Donc, vu comment le mercato a pu se passer. À le convaincre, c'est que t'as pas voulu le garder.
Voilà, exactement. Le deuxième point négatif, c'est que t'as recruté Valère Germain. Très bien, j'adore Valère Germain. Tout le monde l'adore, Valère Germain. Mais quand tu joues en 4-3-3, comme c'était le plan en début de saison, ou en 4-2-3-1, quelle est ton utilité? C'est un second attaquant, c'est un attaquant de soutien, t'as besoin de lui associer une autre pointe avec lui. Alors c'est une question de profil, mais où est la cellule sportive pour décider de ce choix? Et le troisième un peu épisode un peu rocambolesque, c'est cette arrivée de Mitroglou. J'ai rien contre Mitroglou. Mitroglou, il faut lui laisser du temps. Je pense, pour l'avoir vu 2-3 fois au Portugal, c'est un bon attaquant. Il est arrivé blessé. Il a besoin de s'adapter. Je lui laisse encore un peu de crédit, Arnaud. Je suis gentil, je lui laisse encore un peu de crédit. Mais c'est quand même pas un attaquant. Voilà, tu savais très bien quand tu le prenais que ça. tu savais très bien.
Tu vas aller jouer à la Ligue des Champions avec
Mais Arnaud, ce que je veux dire par là, c'est que moi je lui laisse encore un peu de crédit, mais quand tu sais là où je te rejoins, c'est que quand tu veux jouer la seconde place, c'est pas un attaquant de ce standing là que tu prends. C'est pas Mitroglou.
Même le Shakhtar Donetsk qui le prendrait pas. Ouais, je suis persuadé.
Pourquoi pas? Alors la conclusion que je tire de tout ça, c'est que donc ce match qu'on a vu hier, tout comme la rouste prise contre Monaco en début de saison, on s'en rappelle encore, hein, les 6 buts encaissés. Je mets le match du PSG mis à part parce que c'est quand même un match qui est toujours un peu spécial. Tu sais, t'as toujours l'histoire. C'est un match qui joue plus sur le mental que sur les qualités techniques. Et ben ce match-là de Lyon, ça reflète en fait les carences du club. Ça symbolise en fait cette espèce de plafond de verre que l'Olympique de Marseille n'a pas encore réussi à percer en deux mercato. T'as le mercato d'hiver de la première direction quand Macourt est arrivé, qui a été mi-figue mi-raisin. T'as Morgan Sanson qui est quand même arrivé, mais t'as quand même pris Dimitri Payet qui t'handicape, que ce soit sur ta masse salariale ou sur le budget, l'enveloppe que tu peux allouer sur le marché des transferts. Et j'ai l'impression que la direction, voilà, en deux mercato n'a pas arrivé à briser ce plafond de verre. Et t'as deux choses qui apparaissent pour moi très clairement. C'est que, je l'avais dit, je peux le dire parce que je l'ai dit dès qu'il est arrivé, le jour même où il est arrivé. Je pense que ce coach, c'est pas le bon coach qu'il faut pour l'Olympique de Marseille qui veut jouer les deux premières places. J'ai rien contre Di Garcia. Je pense que c'est un bon entraîneur. Mais c'est pas un entraîneur qui est adapté au contexte marseillais. Le deuxième point, c'est que j'aimerais vraiment que cet Olympique de Marseille-là ait une politique sportive qui soit plus constante et plus cohérente. Là, pour l'instant, tu fais des coups. Gustavo, Amavi, Sanson, et t'as beaucoup d'à-coups. Evra, Mitroglou, Payet, et pour l'instant, c'est pas assez cohérent. Et pour conclure, ce que je dirais, c'est que, l'Olympique de Marseille, avec cet effectif-là et cet entraîneur-là, quatrième, c'est sa place. Mais si tu veux vraiment être Champions Project, et ben faudra un peu plus, et faudra restructurer ton club et agir un peu plus intelligemment sur le marché des transferts, et ça commence dès janvier, donc j'attends beaucoup de Jacques Henri Hérault.
Rudy Garcia, c'est pas le bon entraîneur qu'il faut à l'OM, Pierre Ducrot?
Je sais pas si c'est le bon entraîneur qu'il faut à l'OM, en tout cas moi j'arrive pas à comprendre ses choix encore hier, pendant le match.
Son coaching.
Ouais, parce que tu parles de Germain et tu parles de Mitroglou. Pour moi, c'est le problème, c'est pas de prendre Germain au départ ou Mitroglou à la fin. J'ai même pas envie de m'attarder sur les profils, la qualité, est-ce que ce sont des bons joueurs ou pas. C'est qu'à un moment donné, quand tu prends ces deux joueurs-là, c'est pour les faire jouer ensemble. Sinon, ça sert à rien.
Ils sont complémentaires. Ils puent la complémentarité, en plus.
Et le problème, c'est que Rudy Garcia ne veut pas jouer comme ça. Ça, c'est son choix. Ça le regarde. Mais à un moment donné, donc, il y a une incohérence entre le projet sportif, le recrutement de l'OM et le projet sportif.
À 30 minutes de la
fin,
essaye de mettre les deux.
Voulu.
Tu perds 2-0. Il a fait
5 minutes.
Mais
il
a un peu plus.
Il a sorti Germain. Et c'est là où hier personne n'a compris, hein, honnêtement. Oui. Personne n'a compris quand il a fait rentrer Mitroglou et que Germain était déjà sur le terrain. On s'est dit ça y est, ils vont avoir plus de 30 minutes ensemble, on va pouvoir un peu voir quelque chose. Et puis 5 minutes après Germain sort.
Mais,
on a compris qu'il veut pas jouer comme ça.
Le plus bizarre, c'est que t'as un Morgan Sanson qui est très bien en ce moment, qui est un super joueur. Pourquoi il ne commence pas?
Qui est le seul joueur hier à vocation offensive à se procurer une occasion.
Il y a que des défenseurs. Mais parce que t'as une tête de gondole qui est Dimitri Payet et qu'il faut continuer à la mettre.
Je ne comprends pas.
Il y a que ça comme explication.
On demandera à Roland Courbis qu'il a eu à Montpellier. C'est un joueur qui a une densité, un volume physique qui est assez impressionnante. Pourquoi tu le mets pas avec plus Gustavo?
Mais personne.
Simplement à la place de Zonto.
Personne ne conteste ça. Alors bon, hier, je pense qu'il y avait aussi la volonté justement quand même de vraiment de muscler encore plus le milieu de terrain.
Je le trouve plus musclé, plus solide que Zambo défensivement.
En tout cas, pour moi, ça a bien marché parce que Nabil Fekir, pour le coup, a été complètement cadenassé et on l'a pas vu.
C'est aussi parce que Lyon a été très
mal joué
là-bas et qu'ils pouvaient pas.
Ils sont pas bien Lyon en ce moment, tu sais.
Oui,
et puis
l'OM
fait.
Non, mais dans le jeu, c'est pas.
Quand tu gagnes 4 des 5 derniers matchs en Ligue 1, tu peux être pas bien si tu veux.
Mais ça joue à rien à chaque fois.
Mais quand t'arrives à gérer une crise comme ça, tu sais, Marseille.
Mais c'est vrai ce que tu dis aussi.
Le 1 partout contre Montpellier, faut quand même se souvenir du scénario. Il y a plein de matchs comme ça de l'OM qui ont été quand même. Mais non, mais si, Jonathan.
Lesquels, à part Montpellier?
Sur les 10 derniers matchs. Il y en a eu d'autres, mais il y a notamment.
Sur les 10 derniers matchs.
Il y a notamment eu ce match-là. Jonathan.
Et d'autres. C'est le seul. Sur les 10 derniers matchs, ils sont bien quand même. Dans le jeu, ils sont bien.
Qu'ils soient bien dans le jeu, d'accord, mais ça se joue à quoi?
Il n'y a pas eu que des matchs où ils dans le jeu, ils étaient bien.
Ça se joue à leur Steve Mandanda.
Ce qu'on peut leur reconnaître, c'est un état d'esprit qui est maintenant irréprochable. Ils ont cette certitude-là, c'est que quand ils rentrent sur le terrain, ils sont ensemble et il y a une vraie cohésion d'équipe, il y a une vraie équipe. dans le contenu, c'est pas toujours nickel.
Pardon, hein, Jonathan. Hier, c'est deux mi-temps. Et Mandanda, là, sur les 10 matchs d'avant, t'as pas un joueur que tu puisses ressortir de manière récurrente.
Florian Thauvin.
Mais pas de manière récurrente.
Florian Thauvin, il foire son match hier.
Moi, je suis pas trouvé de manière récurrente. Et hier, il a pas été très bon.
Non, mais hier, ok, il est pas bon. Mais Florian Thauvin, il est sur une série exceptionnelle.
Il est plus régulier, c'est vrai.
On va aller voir Thibaut à Lens. Jean Baumel, je crois que c'est terminé entre Lens et Tours en Ligue 2.
Exactement, Arnaud. Terminé 2-0 pour le Racing Club de Lens qui termine bien l'année avec des buts de Christian Lopez à la 11e et Souleymane
Diarra.
À la 16e, pardon?
Heureusement qu'ils l'ont, Christian.
Ouais. C'est vrai qu'à un moment, il était pas souvent titulaire et c'est l'un des chouchous du public de Bollard.
Ah, j'aime beaucoup, moi.
Il se bat tout le temps. C'est vrai qu'il ménage pas ses efforts. Donc, Lens qui termine bien l'année. Voilà, c'était le dernier match de Ligue 2 version 2017 et Lens qui remonte à la 15e place. Bon, on peut dire que pour Tours, c'est même mort pour espérer rester en Ligue 2 la saison prochaine. Donc victoire 2-0 pour les 100 et or.
Match de clôture de la 19e journée de Ligue 1. Merci Thibaut, en direct du stade Bollard. On accueille Sofiane pour continuer sur notre débat de l'Olympique de Marseille à 22h38 dans l'after sur AMC. Salut Sofiane.
Salut, bonsoir les gars, merci de m'accueillir.
Salut Sofiane.
Bienvenue à toi. Olympique de Marseille, une défaite qui ramène à la réalité. C'est l'avis de Jonathan, qu'est-ce que t'en penses?
Non, moi je suis pas d'accord avec cet avis, je vais développer ça. Déjà, si on gagne, faut voir une chose, Marseille a 35 points au bout de 18 matchs. Si l'OM gagne le match de mercredi contre 3, ce qui devrait être le cas en principe, donc ça fait 38 points en 19 matchs, donc t'as un parcours de champion sur la première partie de saison.
38 points, c'est un parcours de champion, non?
38 points en 19 matchs, t'as un parcours
plus maintenant,
Oui, mais 2 points par match, quoi, c'est un parcours
de 2-3
matchs. C'est ce qu'a fait Nice l'année dernière. Voilà. Ils ont terminé 3e.
PSG de Monaco, c'est plus, mais ok.
Oui, non, mais.
Pension, ok.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire?
Vas-y, Sofiane.
Ce que je veux dire par là, c'est que ensuite, tu perds à Monaco, tu perds à Lyon. Bon, dans l'absolu, il n'y a rien d'affamant. On peut discuter de la manière à Monaco, parce que tu prends 6-1, c'est scandaleux ce qu'on a fait.
Ouais.
Depuis, l'équipe a quand même pas mal progressé, je trouve. Et il y a une chose que vous mettez pas en évidence. C'est que l'OM a ce nombre de points-là et ce classement-là, alors qu'elle a, une animation offensive composée de joueurs qui normalement ne devraient pas être titulaires. Parce que les joueurs qui devraient jouer sont pas au niveau. Je pense à Dimitri Payet, je pense à Valère Germain, je pense à Kostas Mitroglou. Donc on a une animation offensive, pardon, qui depuis le début de la saison repose sur le seul Florian Thauvin. Parce que normalement Payet, avec les joueurs qui ont été recrutés au mercato d'hiver et au mercato d'été, on est d'accord qu'Ocampos normalement n'a rien à faire titulaire, que NJ n'a rien à faire normalement sur la feuille de match, que même Zambou Anguissa, qui à un moment donné a été ressorti par Garcia pour solidifier les milieux, normalement c'est Sanson qui doit jouer là. Donc en fait, Rudy Garcia a bricolé son équipe parce que aussi il y a des joueurs dans son 4-3 à qui il a fait confiance qui lui ont pas rendu cette confiance sur le terrain au début de saison. On se rappelle du match contre Rennes, le 3-1, où c'était une équipe ultra offensive entre guillemets avec Sanson, Lopez, Sanson, Lopez, Payet, Thauvin, Germain devant, donc t'as quasiment 5 joueurs à vocation offensive. Pour quel résultat au final? Les joueurs ne lui ont pas rendu la confiance. Donc Garcia a fait un peu un management à la dure en remettant un petit peu de...
Ce milieu-là, ouais. Il a jamais été équilibré de toute manière. Gustavo, oui, Sanson, Lopez, ça s'est dévoué à l'échec.
Et tu sais que contre Rennes, c'était même pas Gustavo, c'était Sertich qui jouait.
C'est vrai.
Donc, une fois qu'on a dit tout ça, hier tu perds à Lyon, sur le match d'hier j'entends un peu vos remarques, enfin quand même la vérité du match c'est que voilà, la bourde de Mandanda quand même modifie le match, c'est plus le match.
Sofiane, tu peux dire ce que tu veux, t'as passé 75 minutes hier à brasser sans réussir à marquer, et ça c'est quand même problématique.
Mais le souci, je suis d'accord avec toi, le souci c'est que les Lyonnais après n'abordent pas le même match de la même manière. Quand ils mènent au score à 1-0, même au niveau des Lyonnais, on restait quand même pas mal derrière, ils étaient sur chaque
ralenti. Moi, je trouve que Marseille a dominé 75 minutes.
Voilà.
Sauf que le problème, c'est que tu domines 75 minutes, tu frappes 19 fois au but.
Tu sais ce que c'est,
ne marque pas.
Tu sais ce que
Lopez a été très fort hier, le gardien.
Tu sais ce que c'est la différence hier entre Lyon et Marseille, et c'est ça qui fait mal.
Un gardien, un attaquant.
J'allais dire presque pareil. Ce qui fait mal par rapport à la politique de recrutement de l'OM, c'est derrière, t'as Marcelo qui est impérial, et devant, t'as Mariano qui plante des buts. Et à l'arrière, à Marseille, t'as toujours Rolando, et t'as Germain qui est muet.
Et Mandanda, attention, parce que Mandanda, depuis le début de la saison...
C'est compliqué de jeter la pierre.
Attends, Jonathan, parce que moi, depuis le début de la saison, il faut quand même mettre les bourdes les unes après les autres. T'as celle contre le PSG sur le coup franc de Cavani où il est pas clair.
Ouais, compliqué celle-là et t'as celle d'hier.
À Montpellier, la frappe de Schio, elle est pas... Enfin, quand même, ça commence à faire beaucoup.
Et les points qu'il te rapporte contre Guingamp, contre Metz, contre le LOSC, il t'en a rapporté plus qu'il t'en a fait perdre.
Tu vois, ça, c'est bizarrement, c'est des matchs qui font partie de la série de 12 matchs sans défaite de l'OM. Mais c'est des matchs contre Guingamp, tu gagnes 1-0, contre Lille, tu gagnes 1-0, contre
aussi,
Bordeaux, tu fais machine 1 partout. T'as pas eu
Bordeaux,
que des bons
matchs. Bordeaux, c'était un bon match quand même. Bordeaux, c'était un super match.
Après, j'ajouterai juste pour finir que je préfère être quatrième à la trêve pour finir sur le, dans les trois premiers à la fin de la saison que faire comme l'année, il y a trois ans, on était premier champion d'automne à mi-saison pour finir à la fin quatrième. Je préfère. Oui. Faut voir les choses comme ça aussi. Là, en deuxième partie de saison, on va recevoir Lyon, on va recevoir Monaco. C'est pas dit qu'on va gagner.
Mais ça, t'as raison. Et puis t'as fait match nul contre le PSG. Et ça, il y a pas beaucoup d'équipes quand qui font des points cette saison contre le Paris Saint-Germain.
Bah, surtout quand donc on a voilà, plus que 2-24 points selon Joe.
Enfin, 2 en 8 matchs. C'est dur. Et 28 buts pris, surtout.
Ouais, je l'avais pas cette stat. Effectivement, c'est pas énorme.
28 buts pris contre ces trois équipes, c'est quand même beaucoup. Mais écoute.
Ouais, donc voilà, juste pour finir, tu te rends compte que l'OM au final. L'an dernier, à la même époque, je crois qu'on avait 10 points de moins. Puis en un an, moi, je trouve que le travail qui a été fait est quand même assez remarquable. Bon, Rudy Garcia, pourquoi c'est pas un top entraîneur, mais bon, pour la Ligue 1, c'est largement ce qu'il faut. De toute façon, à l'OM, un entraîneur n'aurait jamais plus de 3 ans. Donc Rudy Garcia, je pense que en fait, ça monte un peu.
Ah, mais Sofiane. Rudy Garcia, tu te dis pour la Ligue 1, c'est bien. Mais quel est le projet de l'OM? Quel est l'objectif de l'OM?
Champions Project, on y revient toujours.
C'est la Ligue des Champions. Pour être à sur le marché des transferts.
Après.
Ouais, tu peux avoir des étapes aussi, un petit peu. Tu peux te construire.
Ouais, mais un entraîneur n'aurait jamais plus de 3 ans à l'OM,
je sais pas, moi, j'ai vu que Monaco avait pris directement Ranieri quand ils ont commencé leur projet.
Oui, mais enfin bon, attends, ils ont pris directement Ranieri quand ils étaient en Ligue 2. C'était deux.
Il fait une année en Ligue 1, il les met en Ligue des Champions.
C'est pas tout à fait le même contexte.
Oui, c'est pas la même chose.
Le même contexte, Jonathan.
Je pense qu'on t'aurait pu quand même, je veux pas m'acharner sur lui, mais je pense que t'aurais quand même pu taper sur un entraîneur d'un autre standing pour commencer ton projet et justement bien te structurer, bien recruter.
Peut-être qu'ils ont pas réussi non plus, regarde, le Paris Saint-Germain, ils voulaient pas un entraîneur d'un autre standing que Unai Emery.
Non, mais tu te rappelles comment elle arrive,
Rudy Garcia? Vas-y, rappelle-le, rafraîchis-moi la mémoire.
Ils prennent quoi, l'équipe en octobre de l'année dernière?
Il
vire tout de suite Franck Passy, il s'empresse de nommer Rudy Garcia.
Et il fait un 0-0 au Parc des Princes.
Et en faisant une seconde partie de saison un peu contrastée. Je pense que t'aurais pu quand même te donner le temps d'attendre et le temps de justement de voir au moins jusqu'au mercato hivernal.
Bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi, une défaite qui ramène à la réalité, c'est quand même quelque chose de très positif pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'aujourd'hui ils sont quatrième, ils ont 3 points de retard sur Lyon et sur Monaco. C'est quand même quelque chose de très bien. Beaucoup auraient signé certainement au début de saison.
Mais tu sais,
pour se retrouver.
Oui, puis tout n'était pas acheté.
Tu gagnes, bien sûr. Tu gagnes 4 ans. Hein.
T'as une qualité de centre aussi, c'est ce qui a fait défaut en première période, c'est la qualité de centre des Marseillais.
Là où je voulais revenir, ils ont pas été assez bons. Au final, c'est que quand ils étaient second et que tout le monde s'enflammait un peu, et maintenant qu'ils sont quatrième après avoir perdu contre Lyon, pour moi j'en fais la même analyse. Et en tant mon côté un petit peu supporter, je me dis c'est la même chose, c'est exactement la même situation. Et j'attends de voir, mais attention, en janvier on va les attendre, on va voir ce qu'ils vont faire.
Allez, on referme ce débat sur l'Olympique de Marseille. Petit rappel, le jeu de Noël, RMC vous gâte grâce à rueducommerce.com. On a plein de cadeaux à vous offrir, des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des overboards pour tenter de...
C'est quoi ça?
Des overboards, tu sais,
c'est les trucs avec deux roues, là.
Tu mets deux roues, là, tu te mets dessus, là, et je sais pas comment tu tiens. Les gamins, ils en ont partout dans les parcs à Paris. Enfin, ailleurs d'ailleurs aussi. T'as jamais vu ça?
Mais
c'est un truc à la mode de ouf.
Mais si, t'as déjà vu ça. C'est sûr, tu l'as déjà vu. Tu vois,
comme les Segway.
Deux roues et un plateau, et les petits sont dessus, et ils avancent là-dessus.
C'est ça qui s'allume là, quand ça roule, ça s'allume.
Oui, voilà.
C'est comme les Segway, mais sans le guidon.
Ok. Voilà. On n'arrête pas le progrès.
Je sais pas comment ils tiennent en équilibre là-dessus. Bref, pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël par SMS au 732-16.
Comment ça s'appelle, les deux roues avec le guidon?
Oui, le Segway.
Ah, j'ai fait ça un gyropode.
Gyropode.
Ah, c'est parce que c'est la force gyroscopique.
Exactement.
Je crois que je dis Segway parce que je crois que c'est la marque.
C'est une marque,
peut-être.
Ouais. Ah, ils vont peut-être se rincer.
Peut-être non, rincer, s'ils m'écoutent. Enfin, bon, un temps. Noël, donc vous envoyez Noël par SMS au 732-16.
Je vais réussir.
Ou vous appelez le 32-16 et vous faites touche 5. Et on vous souhaite évidemment une très bonne chance. Tirage à la fin de cette émission. Dans un instant, les questions de l'After. Comme tous les lundis, l'équipe de l'After revient sur les grosses actus du championnat de France. On va forcément parler de l'Olympique Lyonnais. Parce que oui, quand même, si les Lyonnais ont eu du mal à battre Marseille hier, ils les ont quand même battus. Et aujourd'hui, ils s'affirment comme une des principales forces de cette Ligue 1. En revanche, côté Stéphanois et côté Lillois, ça se passe pas très bien. On va également en parler dans un instant. 22h47, l'After, le Super Football Show continue sur RMC BFM Sport.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Arnaud Souk.
22h49, vous êtes bien sur RMC, sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'After, vous avez le son et l'image. On est ensemble jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, avec Jonathan Macardy, et tout de suite c'est les questions de l'After. Comme tous les lundis, l'équipe de l'After revient sur les grosses actus de la Ligue 1, du championnat de France. Tiens, première question, jusqu'où peut descendre Saint-Etienne? Est-ce que Saint-Etienne peut descendre en Ligue 2?
Ah bah ils peuvent, Ils peuvent. Moi, je pense que c'est une possibilité quand tu vois ce qui se passe à l'heure actuelle. Et j'en reviens à mon avis tranché du début. C'est qu'à un moment donné, si tu prends pas les bonnes décisions à la tête du club, je te dis pas qu'il faut que tout le monde s'en aille, il faut virer tout le monde, etc. Je pense qu'il faut remettre de la cohérence et de l'ordre là-dedans. Soit t'as une gestion un peu familiale de la chose, mais avec un vrai père de famille, c'est ce que tout à l'heure on disait avec Dugas, mais avec un vrai père de famille qui a de la poigne et de l'autorité, et tout le club se construit comme ça. Soit t'as une autre gestion un peu plus comme celle de Caiazzo, qui est un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps.
Un peu plus chef d'entreprise, quoi.
Un peu plus chef d'entreprise, voilà. Mais une des deux, pas les deux qui sont sans arrêt en conflit et sans arrêt, et ce qui donne quelque chose d'incohérent pour tout le monde après, les joueurs, un coach, tout le monde.
Tiens, juste avant de t'entendre, Jonathan, on accueille Laurent, supporter de la SSE. Salut Laurent.
Bonsoir, messieurs.
Salut. Bonsoir, Laurent. À ma question, jusqu'où peut descendre Saint-Etienne, qu'est-ce que tu réponds, toi?
Moi, je pense qu'on y va tout droit. Je pense que, malheureusement, Saint-Etienne va descendre en deuxième division. L'équipe est mauvaise, les dirigeants sont mauvais. L'après-Galtier m'inquiétait, parce que ce qui m'inquiétait sur l'après-Galtier, c'est que ce soit Galtier qui s'en aille. Je n'ai jamais été fan de cet entraîneur, mais que on a toujours été dans l'attente de son départ, en fait. Ça ne venait pas de nos dirigeants. Il s'en va, on récupère Oscar Garcia. Lui aussi, il s'en va parce qu'il pointe du doigt la direction. Julien Sablé me semble totalement dépassé. Ses seuls arguments, c'est il faut y aller, il faut mettre
les couilles.
Voilà, je voulais pas le dire, sur la table. Aucune cohérence tactique. Moi, je vous pose une question, messieurs. Pendant le mercato hivernal, quel joueur viendra à Saint-Etienne? Quel joueur viendra dans cette galère?
Doria, apparemment.
Non, mais enfin,
bah, c'est vrai.
On parle de Doria, parle de Ntep, enfin, on parle de beaucoup de joueurs, mais personne ne viendra. Quand on regarde le classement, pour moi, les équipes comme Toulouse, Angers, ils sont mieux préparés et mieux armés à jouer le maintien.
À Toulouse, je sais pas.
Franchement, c'est pareil.
C'est compliqué.
T'es pas armé de base pour jouer le maintien. Voilà, là, clairement. Ouais. Alors, pour une fois.
Et t'as quelque chose, Laurent, que peu de clubs ont en France à Saint-Etienne. C'est que c'est un club de foot français qui a une, enfin, qui est dans le paysage du foot français très, très important. Et crois-moi, pour un joueur, Ça peut compter. Alors par contre, je te dis pas qu'en ce moment tu vas attirer le tout meilleur joueur, mais tu peux quand même t'en sortir grâce à ça. Ça ne changera pas tout si tu ne changes pas effectivement de la gestion du club. Voilà, c'est n'importe quoi à l'heure actuelle.
Est-ce que vous avez vu l'attitude de Romillet vendredi?
Oui, mais qui a clairement insulté l'arbitre, oui. Qui a voulu descendre, qui a été retenu par Julien Sablé, qui a insulté l'arbitre, qui a dit t'es une grosse merde.
Non, mais c'est le signe que tout va mal. Comment cette équipe peut se relever? Je vous dis aussi une chose, c'est qu'il y a très peu de leaders dans cette équipe, à part Perrin.
Il n'est pas bien
Ruffier,
en ce moment.
Et Ruffier n'est pas bien en ce moment. Il n'y a pas de leader.
Ouais, ouais.
Moi, je vous dis, on descend en deuxième division. Le 19e, il y aura le 20e, ce sera Metz. Et le 19e, pour moi, c'est Saint-Etienne.
T'as une chance, Laurent, c'est que le niveau de la Ligue 1 en bas de tableau, c'est quand même assez resserré dans la faiblesse, dans la médiocrité. Ouais. Je pense que t'as quand même... on va mettre Guingamp dans l'eau, mais Guingamp, Amiens, Troyes, Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse, Metz, Angers, le LOSC et Saint-Etienne... Ça va jouer le maintien. Ouais,
alors
c'est médiocre.
Marseille, c'est un peu plus que médiocre.
Déconne pas. Joe, il faut... y a quand même une qualité technique à Marseille qui est 10 fois.
Bien évidemment,
je parle d'un raisonnement global. Guingamp, c'est un. Oui, t'as un budget, t'as un club, t'as une situation.
Alors relativement au contexte, mais quand tu regardes les faits, que tu regardes juste l'équipe jouer, que tu regardes juste les résultats, c'est pas brillant. Je suis désolé. Alors, j'ai l'impression que le bas de tableau de cette saison,
il y a une différence entre pas brillant et médiocre.
Non, je vais le maintenir. C'est médiocre. Quand tu regardes par rapport au bas du tableau l'année dernière où je trouvais qu'il y avait des bonnes équipes, il y a 2 ans, c'est pareil. Je crois que les équipes étaient pas mal. Quand tu regardes les 5-6 équipes de queue de classement, c'est moins bon que l'année dernière.
Attends, je les reprends parce que je. Ouais. C'est moins Angers, bon. Angers est moins bon que ces trois.
Ah bah oui,
c'est moins bon.
Ça fait 5 minutes que Bernard Caiezo, le président de Saint-Etienne, veut vous parler parce qu'il disait qu'ils étaient nuls. Laurent, au 32-16, disait qu'ils étaient nuls, les dirigeants. En tout cas, ils ont un plan, Bernard Caiezo.
Ce plan, il est très simple. Il s'organise en trois phases. Première phase, ça a du temps. Avoir un mercato de renfort cohérent qui permette de sérieusement améliorer l'équipe. Deuxième élément important du plan, le management de l'AS Saint-Etienne doit évoluer. Roland va le faire évoluer. Il faudra l'arrivée de nouvelles personnes, peut-être même d'un directeur général de haut niveau. Troisième élément, arrivée d'un investisseur puissant sur lequel, là, c'est mon job. Je m'y consacre, je dirais, à 80%. Lorsque cet investisseur puissant arrivera, nous serons à sa disposition pour soit rester, soit partir du club. Mais de toute façon, c'est l'institution qui compte.
Bah, voilà. C'est cohérent. Moi, j'aime bien ce qu'il dit là.
Ah bah, là, c'est le mercato. On dirait Macron l'année dernière quand il arrivait.
Ouais, c'était à synthèse, rédaction en trois parties, si on se pose.
Ouais. Non, mais si tu prends le truc de très frontalement comme ça, le mercato, oui, il a raison, il va falloir qu'il soit bon. Le management qui doit évoluer avec quelqu'un qui va arriver, un directeur général puissant, etc., comme il le décrit, bah oui, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses sauter les gens qui sont en place, comme par exemple Rocheteau, sauf si tu veux garder Rocheteau en directeur sportif. Comme Ventier, comme tout ça. Donc ça, c'est des décisions fortes à prendre. C'est pas juste pendant le mercato qu'il va falloir les prendre, c'est dès maintenant. Et puis l'investisseur puissant, ça se trouve pas comme ça non plus, même si Saint-Etienne est un club qui fera sûrement rêver certains investisseurs, parce que t'as un public, parce que t'as une histoire, parce que c'est un vrai club de foot.
Il n'est pas exclu, selon nos informations, que les investisseurs en question soient des investisseurs chinois. On n'en sait pas plus.
Ouais, bah, de manière.
On n'en sait pas plus, mais ça n'est pas exclu.
Ou chinois, ou des pays du Golfe, en général, voilà, il n'y a pas 36.
Allez, on referme ce débat sur Saint-Etienne dans un instant. Les avis tranchés de nos drôles de dames. Philippe Auclair, Simone Rovera, David Lorto. Et bien évidemment, Fred Hermel seront là pour nous parler. Allez, pêle-mêle, j'ai quoi? J'ai Cristiano Ronaldo. On va parler de Manchester City. On va parler du coach également de la Juventus Turin.
Que des belles choses.
Simone Rovera est tout simplement le meilleur entraîneur italien. Et pas seulement de Serie A. Hein. Allez, rien.
Meilleur entraîneur italien du monde.
Meilleur entraîneur italien du monde. Mieux que Claudio Ranieri, t'imagines?
Est-ce qu'on va parler de Griezmann?
Je suis pas sûr que l'on parle de Griezmann sous l'angle sur lequel tu voudrais qu'on en parle. Je pense pas même.
Son jeu, c'est qualité.
Allez, 22h57, l'after continue dans un instant sur RMC BFM Sport.
RMC, le super football show, l'after foot.